So permettez-moi de me présenter en quelques mots. Je suis donc un universitaire. J'ai fait toute ma carrière à l'université en étudiant la réflexion, la pensée de l'enseignement, de l'éducation. J'ai donc été conduit à m'intéresser à la pensée française dans ce domaine de l'éducation. Et c'est bien sûr dans ce cadre, Monsieur Mérieux, que je connais aussi quelque peu votre travail. Je dois vous dire, Monsieur Mérieux, que je me tâte. Est-ce que je dois répondre peut-être de façon directe à ce que vous venez de dire? Ou est-ce qu'en préambule, en préalable, il serait peut-être préférable que je parle un peu des problèmes que nous connaissons dans l'éducation japonaise?
Oui, je pense que pour moi, en tout cas, ce serait une meilleure solution.
Eh bien, pour résumer les choses, nous considérons que l'éducation au Japon, et ce n'est pas seulement l'éducation, ce sont aussi les enfants, connaissent une situation critique. Il y a une crise et il faut, face à cette crise, réformer. Réformer, c'est un point sur lequel tout le monde est d'accord. L'éducation japonaise doit être réformée. Comment réformer? Eh bien, suivant l'analyse qu'on va faire de la situation que nous connaissons aujourd'hui, deux voies, deux pistes se présentent pour réformer l'éducation japonaise. Il y a là donc un débat extrêmement âpre, pour ne pas dire une controverse et une polémique. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord pour faire ce constat. Les choses doivent bouger, les choses doivent changer. Face à cette situation, je le répète, tout le monde dit les choses doivent changer, mais les réformes qui sont envisagées sont des réformes qui vont dans deux directions radicalement opposées. Et moi, j'ai une position très critique par rapport aux réformes que les pouvoirs publics japonais veulent entreprendre. Permettez-moi de vous parler plus en détail de ce phénomène que je viens d'évoquer. Pour résumer les choses, les enfants ont le sentiment d'être cloîtrés, d'être enfermés à l'école, mais en même temps, il n'y a plus dans la société japonaise de lieu pour vivre, de lieu d'existence pour les enfants. Pas de liberté dans les salles de classe et découragement, perte de confiance en eux-mêmes du côté des enseignants. Vous avez évoqué en quelques mots la situation des enseignants en France. Au Japon aussi, traditionnellement, les enseignants se considèrent comme des professionnels. Mais on voit aujourd'hui de plus en plus de professeurs, d'enseignants expérimentés, perdre confiance en eux-mêmes. Dans la société japonaise, on réclame à corps et à cri plus de concurrence, plus de compétition. On mène de plus en plus une politique néolibérale et ce principe de concurrence et d'auto-responsabilisation, entre guillemets, s'applique aux enseignants. Concrètement, ça veut dire pour eux une charge de travail de plus en plus lourde au quotidien. On demande aux enseignants de définir des objectifs et puis on les évalue par rapport à ces objectifs. On évalue les résultats qu'ils ont obtenus. Les enseignants travaillent donc dans ce cadre et en fait, ils sont obligés de travailler véritablement comme des bêtes de somme. Avec ces nouvelles méthodes de contrôle, de gestion des enseignants, les enseignants ne perçoivent plus leur travail comme une profession ou comme une vocation. Ils deviennent en quelque sorte des salariés, des sortes d'employés de bureau, et ils perdent toute la fierté, tout l'orgueil qui allait de part avec leur travail. Les enseignants japonais ont un temps de travail très long, beaucoup plus long que celui des enseignants français, et on empiète même sur leurs vacances estivales. Ils ne peuvent pratiquement pas prendre de vacances en été. Voilà, donc d'un côté, vous avez les enfants qui ont carrément le couteau à la gorge avec cette concurrence, avec cette compétition acharnée. Et puis les enseignants qui souffrent aussi beaucoup d'être contrôlés comme ils le sont. Ce que je viens de dire ne s'applique pas seulement à l'éducation ou à l'enseignement, c'est une évolution générale dans la société japonaise. Le Japon est à la croisée des chemins. Quelles vont être ses orientations pour le XXIe siècle? C'est une question qui est posée pour tout le pays et aussi pour son système d'enseignement. Pour parler de l'éducation en France au XXIe siècle, Monsieur Mérieux, vous avez commencé par faire un retour en arrière, faire une sorte de bilan de l'éducation au XXe siècle, en retournant un peu plus loin dans le temps, en commençant avec la Troisième République et Jules Ferry. Si nous devons nous livrer au même exercice et faire une sorte de bilan pour le Japon, eh bien, le grand virage au Japon, il a été pris en 1945. De façon symbolique, la constitution impériale du Japon a été remplacée par une nouvelle constitution. Le rescrit impérial sur l'éducation a été abrogé. On est passé d'un système qui formait les gens à être de fidèles sujets de l'État à un système défini par une loi d'orientation, une loi fondamentale sur l'éducation. Cette nouvelle constitution, ce nouveau texte de loi sur l'éducation, orientant toute l'éducation, sont apparus comme des éléments essentiels pour nous. Nous leur avons accordé beaucoup de valeur, nous y avons été très attachés. En fait, avec ces nouveaux textes, nous faisions un retour sur le passé du Japon et nous décidions de rompre avec ce passé. Le Japon voulait contribuer à la paix internationale, le pacifisme étant en effet un axe important dans la nouvelle constitution et dans la loi sur l'éducation. Le respect des droits de l'homme, qui était totalement absent de l'ancienne constitution impériale, est devenu un axe important dans la nouvelle constitution. Quant à l'éducation, la mission qui lui a été impartie, est de former des êtres à la recherche de la justice, de la vérité et de la paix. Plutôt que de former des sujets d'un État, il a donc été décidé de former des êtres un à un en respectant leur dignité individuelle. Bien sûr, ce que je vous décris là, ce sont les textes et dans la pratique, l'éducation a été soumise à différents aléas sociaux. Vous avez évoqué, Monsieur Mérieux, une massification, une véritable explosion de l'éducation en France dans les années 60. Le Japon a grosso modo connu les mêmes phénomènes avec une multiplication des occasions d'apprendre, de fréquenter l'école. C'est à partir des années 60 que le système scolaire évolue, qu'on met de plus en plus l'accent sur la concurrence, sur la sélection, sur les performances. Et puis, il y a à cela un choix politique qui s'ajoute, qui se superpose. Le Japon veut-il continuer à construire la paix mondiale au XXIe siècle? Il avait renoncé à la guerre avec cette nouvelle constitution. Eh bien, aujourd'hui, il est de plus en plus question de réviser cette constitution pacifique. Plutôt que de former des êtres humains un à un en respectant leur dignité, on veut maintenant que l'éducation participe au maintien de l'ordre social. C'est une orientation qui est de plus en plus accentuée ces temps derniers. On parle aussi de réviser très prochainement la loi d'orientation sur l'éducation. Ce sont là donc des questions de plus en plus brûlantes pour la société japonaise. Face à ces évolutions, il y a des critiques, des voix qui s'élèvent pour contester ces directions empruntées. Je fais partie de ces voix qui contestent les réformes amorcées. Et je dis que la véritable réforme, c'est de déployer de façon encore plus accentuée l'esprit qui est dans la Constitution, l'esprit qui est celui de la loi fondamentale sur l'éducation. C'est à mon avis la voie à suivre pour aider les enfants et aider les enseignants qui ont tant de difficultés. Nous sommes dans une situation dangereuse. On veut mettre de la concurrence, de la compétition partout, à tous les niveaux de la société. On veut aussi que le Japon soit un pays comme les autres, capable de faire la guerre. Nous sommes donc dans une situation pleine de dangers. Il y a dans la société une hiérarchie qui va en s'accentuant, les perdants et puis les gagnants, les battants de l'autre côté. C'est quelque chose qui est vrai pour la société, mais qui est vrai aussi pour l'école. On peut dire que le principe d'égalité est totalement remis en cause et qu'à ce principe d'égalité se substitue un principe de compétition. Je crois effectivement que cette éducation à la citoyenneté est d'une grande importance. Et quand on regarde ce qu'a été l'enseignement au Japon depuis 1945, cette éducation à la citoyenneté, elle a été faite dans le cadre de la matière qu'on appelle au Japon la matière société, qui réunit histoire, géographie et éducation civique. Dans le cadre de cette matière, on a parlé aux enfants de la Constitution. On leur a appris ce qu'était la dignité de l'individu. On leur a enseigné également comment respecter autrui. Et on a mis l'accent sur la liberté dans les salles de classe, qui est un élément véritablement indispensable. Or, on a peut-être trouvé que cette éducation à la citoyenneté à la japonaise, elle formait des enfants ayant un sens critique, un esprit critique trop développé. Et maintenant, on entend des décideurs, des hommes politiques dire qu'on est allé trop loin dans la démocratisation et qu'il faut maintenant rectifier le tir. Bien sûr, ces décideurs, ces hommes politiques, eux aussi, ils parlent de citoyenneté. Mais la citoyenneté, pour eux, c'est former des citoyens fidèles à l'État, respectueux de l'ordre public. Dans les salles de classe où il y a cette concurrence, les enfants regardent leurs camarades comme des concurrents et il n'y a donc pas de véritables relations d'amitié qui peuvent se développer. C'est donc pour nous un problème d'éducation. Comment éduquer ces enfants à la vie en commun ? Ce que vous avez dit, Monsieur Mérieux, sur la différenciation qui n'est pas l'exclusion, sur le besoin également de répondre à des besoins individuels, est quelque chose qui recoupe parfaitement les préoccupations qui sont les nôtres. Apprendre ensemble, c'est quelque chose qui est nécessaire, je viens de le dire à l'instant, mais apprendre ensemble, cela ne veut pas dire apprendre uniformément. Il peut y avoir dans une salle de classe, des groupes d'enfants organisés en fonction des compétences, en fonction du niveau, mais on peut aussi imaginer que les enfants qui sont plus avancés aident leurs camarades qui ont plus de problèmes. C'est une façon de développer des relations humaines, une façon d'apprendre ensemble, et c'est quelque chose qui m'apparaît comme le fondement même de la démocratie à l'école, apprendre à respecter l'opinion des autres. Il faut également que les enseignants apprennent à écouter les enfants. Cette écoute des enfants est vraiment la chose essentielle que l'on demande aujourd'hui aux enseignants. Je voudrais évoquer brièvement les enjeux du XXIe siècle. J'ai publié l'été dernier l'ouvrage que je viens de vous montrer, La culture et le savoir à l'époque planétaire que nous vivons.
L'ère planétaire.
Or, quand je parle d'époque planétaire, je ne pense pas seulement au XXIe siècle, je pense aussi à l'année 1945. Car 1945, c'est véritablement une ligne de partage dans l'histoire japonaise. J'ai évoqué il y a quelques instants la Constitution. Mais si c'est une ligne de partage dans l'histoire japonaise, c'est aussi une ligne de partage, bien sûr, dans l'histoire mondiale. 1945, c'est passer de la guerre à la paix. C'est aussi partager un même objectif, la construction d'un nouvel ordre international. 1945, c'est aussi l'entrée dans l'âge nucléaire. Le Japon est bombardé à Hiroshima et à Nagasaki. Nous avons donc cette arme nucléaire qui est susceptible d'anéantir toute la planète. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie, des problèmes de destruction de l'environnement, mais quand on y pense, 1945, c'est donc l'entrée dans l'âge nucléaire, le développement de nouvelles armes nucléaires, et c'est donc aussi le commencement des problèmes d'environnement. À partir de 1945, un développement phénoménal des sciences de la Terre, des sciences de l'univers. Avec le développement de ces sciences, on prend conscience de tout ce qui vit, que tout ce qui vit sur la Terre peut aussi disparaître avec une guerre atomique et que, en fait, les êtres humains peuvent être anéantis comme la planète risque de l'être aussi. Il y a donc, à partir de cette époque, une notion de coexistence, l'idée que nous vivons tous ensemble, que nous sommes tous dans le même bateau. Quand je parle d'époque planétaire, j'entends par là que tous les êtres humains qui vivent sur notre Terre, que tous les pays doivent partager le sentiment qu'ils ont un lien au niveau de leur destinée même. C'est cela que j'entends quand je parle d'une époque planétaire. Bien sûr, époque planétaire, il y a là des aspects qui peuvent être positifs également, puisque nous sommes, nous, au Japon, vous, en France, et nous pouvons ensemble partager ces quelques heures. Je voudrais terminer par quelques remarques. Qu'est-ce qui doit être aujourd'hui les enjeux de l'éducation? Qu'est-ce qui fait le centre même, le fondement même d'une culture générale? Je me sers d'un jeu de mots en japonais en parlant de 5 C, S-E-I, qui sont les enjeux de l'éducation au XXIe siècle. Ce mot en japonais de C peut avoir beaucoup de sens. Alors, donc, il y a un premier enjeu qui est celui de s'aimer, la vie même, l'existence même. Vous avez ensuite un autre enjeu qui est celui de seikatsu, la vie, mais cette fois dans un sens plus quotidien, l'existence au jour le jour. Vous avez ensuite le troisième sens possible à ce son de C, qui est la sexualité, avec la question des rapports entre les deux sexes. Vous avez un quatrième mot en japonais, seiji, la politique. Et enfin, pour terminer avec ce jeu de mots, nous avons ce qui est sacré, ce qui est saint en japonais, seinarumono. Vous avez terminé votre intervention tout à l'heure, Monsieur Mérieux, en parlant de l'importance de bien différencier entre savoir et croire. Je crois que les êtres humains ont tout naturellement un besoin de croire, un besoin de prier, un besoin de s'adresser à des choses saintes ou sacrées. Et c'est ce que j'ai pour la première fois voulu écrire dans ce livre. Les 5 points que je viens de citer, l'interprète en a fait une sorte de jeu de mots en japonais, mais ça ne s'arrête pas au jeu de mots. Il s'agit pour moi de questions véritablement fondamentales pour l'éducation japonaise aujourd'hui. Comment apprendre ces 5 points dans l'éducation aujourd'hui? Apprendre à la fois et enseigner, comment peut-on intégrer ces 5 points à l'apprentissage et à la pratique de l'enseignant? Même si quelque chose est vrai, elle ne doit pas être enseignée comme un aliment ou une capsule de médicament à avaler telle qu'elle. La vérité, c'est quelque chose qui se révèle à l'intérieur des enfants. Donc même si on leur apprend quelque chose de vrai, cette vérité doit pour eux être le point de départ d'un questionnement en eux-mêmes, un questionnement sans cesse renouvelé. C'est une façon d'apprendre qui me paraît essentielle. Je sais, Monsieur Mérieux, que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le fait d'apprendre. Nous-mêmes, nous essayons de penser les choses à partir des enfants et vous-même, vous êtes l'auteur d'un ouvrage où vous demandez le retour rapide d'Émile de Rousseau. Voilà, donc j'ai le sentiment que nous avons des points de départ qui se recoupent dans une très large mesure, que nous avons une vision des choses qui est pour l'essentiel commune et c'est ce que je voudrais maintenant confirmer avec vous.